7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, à l'heure d'été, au plus fort de la chaleur dans certaines villes du monde. Hier, nous étions à Douchanbé, au Tadjikistan. Nous poursuivons notre route pour croiser des vies quotidiennes sur le macadam, avec le regard d'expatriés. Aujourd'hui, vivre dans une ville de l'extrême, Doha, au Qatar. Bonjour Lakshmi Lotha.
Bonjour.
Les auditeurs vous connaissent bien, vous venez de quitter Doha, vous avez vécu 4 ans comme correspondante pour RFI. Et vous avez choisi, bien sûr, comme le veut la coutume de l'émission, le titre Ville de l'extrême. Doha, 40 degrés aujourd'hui, j'ai regardé les prévisions. La routine pour un été à Doha, finalement.
C'est peu même.
Oui, c'est
il fait bon aujourd'hui.
Ouais, donc c'est pour ça que vous avez choisi le titre Ville de l'extrême.
Notamment, voilà, extrême à cause de l'extrême chaleur qui règne à Doha. Et habituellement, c'est plutôt autour de 50 degrés en moyenne. On peut souvent voir des images d'expatriés qui font cuire des œufs sur le capot de leur 4x4 et ça marche, c'est vrai. Et on peut pas faire quelques mètres dehors sans sentir véritablement sa peau brûler. Donc moi, la première fois que je suis arrivée, l'impression c'était vraiment en sortant de l'avion d'être dans un hammam. Donc extrême chaleur, humidité, donc vraiment voilà, autour de 50 degrés. On n'arrive pas très bien à réaliser, je pense, tant qu'on l'a pas vécu, mais voilà, vraiment
c'est très chaud. C'est pas le seul, d'ailleurs, le seul fait qui qualifie ce côté vie extrême à Doha.
Extrême richesse aussi, hein, c'est le troisième pays le plus riche du monde en PIB par habitant. Et ça se voit dès qu'on arrive dans la ville, des 4x4, des Porsche, c'est banal finalement là-bas. Et des maisons de Qatariens, alors en forme de temples grecs ou de châteaux avec des créneaux, ils ont des goûts très originaux, c'est assez sympathique. Mais oui, ça se voit aussi dans la ville, sur les habitants, avec des très grandes montres. Quand on y va, il faut s'acheter la montre adéquate pour bien passer dans le paysage. C'est important, l'apparence.
Et puis, dès qu'on sort de la ville, plus rien, hein, puisque Doha est quasiment la seule ville du pays. Doha, ville de l'extrême, plus de 2 millions d'habitants, 2 millions 200 000 autour de
ça.
De ça,
hein. 2 millions d'habitants.
Et combien de Qatariens?
Alors, moins de 10%, 150 000. Il y a plusieurs chiffres qui circulent parce qu'ils ont des difficultés avec cela, entre 150 000 et 200 000, on va dire. Donc,
oui, c'est un sujet sensible. Lakshmi, nous allons passer donc de la glacière des lieux publics climatisés au mieux à 17 degrés, à la fournaise de l'été dehors. Une ville justement totalement déserte dehors. On ne marche pas dans cette ville, sauf dans les chantiers de construction et dans les quartiers pour les ouvriers des chantiers. Un travail harassant d'ailleurs et des chantiers interdits au public. Bienvenue à Doha, la ville de l'extrême. اسمعني وركز واعرف من معاك قوة أدائي خلت العناق للحكاك اسمام وأيفي جايين يولعوا المجال بلاش تلعب معانا ما فيك للمكسب احتمال فلو انت الفيك هيتحط عليك من غير ما تزبهل أصله بقى شيء ممل ما تنكرش انك سامعني ومتكلف من كتر ما انا مظبطك بتمشي في الشتا مصيف فطول ما رصاصتك عايشة جوه لساني بتطلع صوت رصاصتك قدام رصاصتي تخف وتموت مصري واخويا وصاحبي دراع وبكل فخر فاحنا الملوك وانت لسه مجرد كلمة على السطر اعلى اعلى مش هيفرق معانا الكبير فيكو انحنى كل ما فكر يتحدانا اتكلم زي ما تتكلم هترجع تحط ودنك على السماعة ومننا تتعلم هترجع تحط ودنك زي الكلب وتتعلم حبري على ورقي نزيف كلمات في مخي سيب من الاشعار ونقول يا مطر رخي رخي على مايكروفون قدامي حفظته وحفظني تقدر تقول بشوفه اكتر من ابويا وامي ايوه المزيكا هي اللي بتسوقني للنهار بتطبل على طبلة ودني ودماغي رقصة معاها عمالة تهز لا مؤاخذة في التشبيه لو كان مستفز بتشمئز من الفن الحقيقي اللي ليه قيمة حبيتك حبتيني وسبنا بعض مالوش قيمة افهم ونضف ودانك سلكها من العسل رد فيها الروح وطلعها بره كفل اديها فرصة تشم نفسها بتزود المأساة فن عابد كاتب على أنفاسها فاحنا الأكسجين اللي ودانك بتتنفسه الرصاصة تقتحم أذان السامعين فاسمعوا وركزوا أيوة الرصاصة تقتحم أذان السامعين فاسمعوا وركزوا مرة ثانية
Nasser Rosaset Alam, c'est un groupe égyptien installé à Doha. Doha, ville de l'extrême au Qatar. Et chaque jour, c'est vrai qu'on aime bien vous faire découvrir un bon petit rap du cru. Parce que s'il existe aujourd'hui une musique universelle, eh bien, c'est bien le rap. Doha, ce n'est pas exagéré, Lakshmi Lotha, de dire que c'est pour ainsi dire la seule ville du pays.
Oui, c'est ça, parce que à partir du moment où on sort de Doha, des routes toutes droites, des autoroutes, à droite du désert, à gauche du désert, et ça peut durer comme ça très longtemps. Mmh. Des
et puis d'un côté évidemment la mer, hein, parce que la ville est bâtie sur un petit port de pêche dont il ne reste pas grand-chose d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Alors en fait, quand on arrive de l'aéroport, on longe une corniche en forme de croissant de lune, très jolie, avec vue sur une mer turquoise. Je ne m'attendais pas à voir une couleur de l'eau comme ceci en arrivant. Et on va vite voir ce qui fait la fierté des Qatariens, leur skyline, donc les tours, les gratte-ciels du quartier qui s'appelle West Bay. Et entre expatriés, on leur a donné des petits noms. Il y a la tour de l'architecte français Jean Nouvel, donc la tour Jean Nouvel, qui ressemble à un grand dé à coudre, tout habillé comme de la dentelle. Et en fait, ce sont des mouchards à biais. Et la nuit s'est illuminée de bronze, d'or, d'argent, donc une vue très jolie. Et il y a une autre tour qu'on appelle la Tornado Tower en forme de tornade. Donc ça, West Bay, ce sera vraiment le quartier des affaires, le quartier central, mais avec pas tant de gratte-ciel qu'on peut trouver à Dubaï, par exemple.
Ah, justement, c'est j'allais vous poser la question. Est-ce que visuellement, Doha est encore loin de rivaliser avec les folies de Dubaï? Parce que ce que vous évoquez, ce que vous décrivez, nous évoque Dubaï.
Alors, en fait, c'est très loin de Dubaï. D'ailleurs, on parle souvent de Doha comme d'un petit village. Vraiment, par rapport à Dubaï, déjà les distances sont beaucoup moins étendues. On va très vite d'un endroit stratégique de la ville à un autre. Hein. C'est un quart d'heure, une demi-heure.
On est dans une ville finalement de taille modeste. Hein,
voilà, à taille humaine.
Un million d'habitants, donc quelque chose comme ça.
Oui. Hein. Il me semble.
Alors, Doha, il faut tout de même bien le préciser. Hein. Le pays est indépendant depuis 1971, sous protectorat britannique à partir de 1916, donc bâti sur ce petit port de pêcheurs. On est dans un port en eau peu profonde. Et puis, il y a cette fameuse île artificielle, puisque tout est sorti de nulle part avec l'argent des hydrocarbures. Et très très vite, il y a très peu de temps finalement.
Effectivement, si on regarde des photos de Doha dans les années 80, cette fameuse corniche dont je vous parlais est déserte. Et en parlant avec des expatriés qui ont passé plus de temps sur place, ils nous disent mais on reconnaît plus Doha, c'est pas possible. Il y avait vraiment rien, aucune tour à part le Sheraton, donc c'est l'hôtel historique qui a été construit à la fin des années 70. Et même aujourd'hui, enfin moi j'avais l'impression de voir les tours pousser. Chaque jour, s'agrandir de plus en plus, et on voit la ville en transformation constante, en mouvement et en croissance. Mmh. Et même au niveau de la population, voilà,
la ville est un chantier perpétuel. Lakshmi, vous signez le programme musical de l'émission, autant dire qu'on sera aussi peu qatarien finalement que la population elle-même. C'est plutôt une mosaïque musicale que vous nous proposez, à l'image de ce qu'écoutent d'ailleurs les différentes communautés. Première communauté à Doha, première communauté étrangère à Doha, la communauté indienne, bien sûr.
Vivre à Doha, la ville de l'extrême, au Qatar, avec vous Lakshmi Lotha. Vous signez le programme musical, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors là, c'était la chanson Tal c'est Tal Mila, la bande originale du film Tal, un film de Bollywood donc. Et on peut entendre ce genre de chanson sur la radio nationale qatarienne, qui dispose de plusieurs fréquences et des programmes en langue étrangère. Il y a l'anglais, et là l'ourdou donc, qui émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a aussi un programme francophone, Oryx FM, que je salue.
Et pour cette communauté indienne, 600 000 membres hein, à peu près, à Doha, alors qui sont ces Indiens, comment vivent-ils?
Alors, en majorité, donc voilà, plus de la moitié de la population au Qatar, ce sont des personnes issues du continent asiatique, avec la première population au Qatar, 600 000, ces Indiens, pour la majorité, donc des populations pauvres, qui ne vivent pas dans le centre-ville à Doha et qui ont d'ailleurs l'interdiction d'y vivre. C'est dans la loi. Ce que dit la loi, c'est que donc des personnes célibataires, entre guillemets, n'ont pas le droit de vivre dans les zones où vivent les familles. Mmh. Donc les Qatariens, les expatriés qui, eux, peuvent venir en famille puisqu'il faut des conditions salariales importantes pour pouvoir faire venir sa famille. Et donc ces ouvriers viennent très souvent seuls.
Oui. Donc c'est une façon détournée finalement, en disant célibataire vous vivez à l'extérieur de la ville, c'est une façon détournée effectivement de faire vivre ces ouvriers à l'extérieur hein, de la ville. Quand on parle d'expatriés ou d'immigrés, finalement qu'est-ce qu'on entend par ces deux mots-là sur place?
Alors à Doha, expatrié c'est quelqu'un qui aura un statut social important avec un salaire moyen plutôt élevé.
Ouais. Quelle que soit son origine d'ailleurs, ça peut être un
voilà,
médecin indien,
il y a des médecins indiens, médecins, ouais. Des infirmières, des professeurs. Et en revanche, on va parler d'ouvriers dès qu'il s'agit voilà, d'avoir un salaire qui tourne autour de 150 euros, 200 euros par mois.
Mmh. Ouais. Vous êtes allé dans ces quartiers, donc non pas sur les chantiers de construction, mais plutôt là où habitent les ouvriers qui travaillent sur les chantiers de construction, loin du centre-ville.
Très loin même.
Oui.
On va faire trois quarts d'heure, une heure de route. On sort de Doha, on arrive soit au milieu du désert, soit dans ce qu'on appelle donc la zone industrielle de Doha. Et là, c'est vraiment un autre monde. C'est Doha sans être Doha, c'est-à-dire qu'il va plus y avoir d'asphalte sur les routes. C'est des routes de terre cabossées avec des trous. On n'est vraiment plus à Doha. Il n'y a pas de tours, pas de gratte-ciel. Ça va être des bâtiments. On va voir des bleus de travail suspendus en train de sécher sur les balcons. Il y a quand même une rue très animée avec des restaurants, un peu de vie finalement, mais aussi des carcasses de voitures, des pneus. C'est très étrange. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est comme si on n'était plus à Doha, dans cette vitrine un peu dorée.
C'est dans cet endroit, dans ce ghetto en développement, que l'on prend conscience de l'extrême fournaise de Doha, qui peut atteindre 50 degrés, vous nous le disiez en début d'émission, parce que là, pour le coup...
Les endroits climatisés sont beaucoup plus rares, et aussi, on va voir des piétons, donc des gens marcher sur ces routes. Pourquoi ? Parce que les populations n'ont pas de voiture et n'ont même pas le droit d'avoir le permis de conduire. Il y a aussi une loi qui interdit à certaines catégories de professions qui leur interdit d'avoir le permis de conduire et donc de pouvoir se déplacer. Et c'est vrai qu'à Doha, c'est très rare de voir quelqu'un marcher finalement à cause de la température et parce que tout se fait en 4x4, il n'y a même pas de trottoir pour vous raconter. Comme moi, je suis arrivée à Doha, donc j'avais ma fille qui avait 2 ans et demi à l'époque, et je me suis dit, bah, tiens, on va faire une petite balade en poussette, une promenade normale.
C'est pas une ville poussette.
On sort, et là je me dis, mais où est-ce que je vais? Et le trottoir faisait plusieurs centimètres de hauteur, donc impossible de redescendre, et au bout de quelques mètres, j'ai rebroussé chemin, et je me suis dit, bah, je vais demander, et puis on m'a dit, mais tu as marché, ça ne va pas. Il faut prendre ta voiture.
Où en sont les polémiques sur les chantiers, notamment liés au mondial de foot, mais pas seulement, où les conditions de travail ont été largement dénoncées par les ONG, qui dénoncent une situation proche de l'esclavage, où bien évidemment les ouvriers ont leur passeport confisqué, mais de très mauvaises conditions de travail et n'ont pas la possibilité de rentrer lorsqu'ils le souhaitent?
Alors tout ceci n'a pas changé. Et il y a encore de nombreux rapports qui dénoncent ces conditions. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit quand on est à Doha, quand on y vit et qu'on ne peut pas ignorer. Parce que moi, je me rappelle, je récupérais ma fille à l'école. Et donc, comme garant, sur le trottoir, on voyait des ouvriers qui faisaient leur pause déjeuner en se mettant à l'ombre d'un arbre. Mais voilà, il fait quand même... 40 degrés, 42 degrés, même à l'ombre, et ils n'avaient aucun endroit pour faire leur pause, à part voilà, faire leur sieste par terre.
Pourtant, ça fait beaucoup de bruit dans la presse. Que font les autorités qatariennes?
Alors, les autorités
face à ces dénonciations des ONG
font beaucoup de promesses. C'est ce qu'on va dire. Mais après, est-ce qu'elles vont être tenues ou non? Là, il y avait déjà le fameux système Kafala, donc de parrainage, qui, en fait, tout expatrié doit avoir une autorisation pour quitter le pays. Mais que ce soit pour partir en week-end ou pour rentrer définitivement, il faut...
Y compris pour un cadre de banque, hein, il faut le préciser. Ça, c'est pas seulement les immigrés, c'est les étrangers dans leur ensemble qui viennent travailler au Qatar.
Ils doivent donc avoir
un sponsor, hein, c'est bien cela.
C'est ça, voilà, un parrain.
Et donc qatarien
qui a droit
qui en général le DRH de l'entreprise, ou qui en tout cas il faut qu'il y ait une identité, c'est bien cela.
Voilà, c'est ça, sinon on ne peut pas vivre et travailler dans le pays, et c'est ce parrain qui a tous les droits, le droit de nous donner l'autorisation de conduire ou non, d'ouvrir un compte en banque ou non, de sortir du pays ou non. Et comme je disais, voilà, même si on veut partir à Dubaï en week-end, si on n'a pas ce papier signé,
donc
on peut
il
pas
faut aller voir son employeur pour dire
s'il vous plaît, je veux partir en week-end, je veux rentrer chez moi, donnez-moi l'autorisation.
Il faut avoir donc un bon de sortie signé, c'est bien cela.
Alors quand tout se passe bien, pas de problème.
C'est pas propre au Qatar, hein, ceci dit,
dans
de
la
nombreux
région,
pays du
ouais.
Golfe appliquent cette kafala. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc quand tout se passe bien, aucun problème, mais si on a quelques soucis ou qu'on s'entend mal, il y a vite des moyens de pression, on le voit bien, pour finalement être ennuyé.
Il y a un droit du travail sur place à Doha pour justement davantage réglementer les conditions de travail. Là, je reprends bien sûr le cas non pas des expatriés cadres dans les bureaux climatisés à 17 degrés, mais le cas des ouvriers sur les chantiers de construction.
Alors oui, il y a un droit du travail, et les autorités parlent de réforme, de modifier tout cela pour accorder plus de droits et changer notamment ce système kafala, mais c'était prévu déjà cette réforme pour fin 2014, et là on est déjà bien au-delà. Et la dernière déclaration du ministre du Travail qatarien, c'était de le faire avant fin 2015, mais finalement avec un contenu qui répond pas aux demandes, aux fortes attentes.
Comment réagissent les entreprises elles-mêmes, les employeurs du pays, qui sont souvent des multinationales, de BTP?
Alors les multinationales se défendent en parlant des sous-traitants, en disant bah, c'est pas nous, nous on a des normes correctes, mais c'est vrai qu'elles travaillent avec énormément de sous-traitants, voire de sous-sous-traitants, qui du coup ne respectent pas forcément les règles du pays, parce qu'il y a des règles, ça c'est vrai. Dans la loi du Qatar, il y a par exemple le fait de ne pas avoir, on peut pas avoir 10 personnes qui vivent dans une pièce exiguë. Je crois que c'est limité à 4, avec interdiction des lits superposés. Dans la réalité, quand on va sur place dans ces, ça s'appelle des camps de travail, et quand on voit leur lieu de vie, c'est, enfin, je pense qu'il y a eu assez de reportages là-dessus, et c'est des conditions vraiment
terribles. Vous avez travaillé sur le sujet. Vous restez avec nous, Lakshmi Lotha, suite de cette vie particulière à Doha, ville de l'extrême, capitale du Qatar. On se retrouve juste après le flash dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins.
Milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins éclairés chaque jour par la vie quotidienne dans une ville du monde, au plus près des réalités, dans les replis et la touffeur de l'été. Bref, c'est le contraire d'une carte postale. Vous le voyez avec vous aujourd'hui, Lakshmi Lotha. Vivre dans une ville de l'extrême, Doha, au Qatar. Vous avez été correspondante pendant 4 ans pour RFI à Doha. Doha, la ville peuplée d'étrangers. Vous nous l'avez raconté en première partie d'émission. Les étrangers qui composent plus de 90% 90% de la population, de l'ouvrier au travail harassant à l'ingénieur au salaire à 4-0. Tout est une question de température ici, hein, 40, 45, 50 degrés, vous nous disiez même, à l'extérieur et 15, 16, 17 degrés à l'intérieur. Grande climatisation oblige. Une ville avec une véritable frontière aussi entre la vie de l'intérieur et celle de l'extérieur. Alors comment vivent les familles qatariennes derrière les murs de leur portail ou dans leur gratte-ciel? On en parle un peu avec vous, Lakshmi Lota.
Aïna l'aulad.
Araïta kaifa kana Nasr wa Ali mutalahifani lil khurouji inda l'iftar. Mutla abihima. Kaif. كان زوجك أشد حرصا على أن يخرج مع أول فوج من الأطفال.
زمن مضى يا والدتي.
أعرف يا حبيبي أعرف. وكم أتذكر عندما كنت طفلة جمال هذه المناسبة.
ألم يأتي أحد من الأطفال بعد؟
هيا قم لتذهب إلى المسجد، لقد تأخرت.
أراكم على خير.
Vie privée, c'est compliqué de parler des familles de la société qatarienne. On vient d'entendre une chanson qatarienne, là, pour le coup, Lakshmi Lota.
C'est ça, une chanson que vous pouvez entendre en boucle lors d'une soirée particulière, donc la soirée du Garang Gao. C'est un moment particulier et vraiment typique au Qatar. C'est en fait une sorte de Halloween. Ou pendant le Ramadan, donc un soir, les enfants, donc c'est pour les enfants, vont aller de porte à porte demander des bonbons, des noix. Et j'en ai vu revenir vraiment avec des sacs de 1 kilo remplis de noix et autres noisettes et sucreries.
Toujours cette opulence dans les familles qatariennes. Mais alors si on essaye de pousser le portail des maisons ou de monter dans les étages des gratte-ciels, comment est-ce qu'on perçoit la réalité des familles qatariennes? Ça a été très compliqué pour vous, Lakshmi,
alors déjà,
qui n'êtes pas qatarienne.
Pousser le portail, impossible. Moi, j'ai toujours rêvé, je rêve toujours d'entrer dans une maison qatarienne. Et ça n'a pas pu être le cas.
Pendant 4 ans.
Voilà.
Vous n'avez jamais été invité dans une famille.
Invité à déjeuner ou dîner dans une famille qatarienne. Et pourtant, j'ai une très bonne amie qatarienne que je salue d'ailleurs. Voilà, très bonne relation. J'ai réussi à la faire venir chez moi, mais dans l'autre sens, je veux dire, il n'en a même jamais été question dans la conversation. C'est pas possible. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les Qatariens veulent vraiment séparer la sphère familiale qui est privée, ça leur appartient, c'est leur cercle, et on peut pas y pénétrer.
Un cercle familial qui s'ouvre néanmoins sur le reste de la communauté qatarienne, non ?
Alors oui, eux se voient entre eux, s'invitent entre eux. Mais par exemple, si vous sortez à Doha le week-end, voilà, vous allez en terrasse, aux tables des restaurants, ça saute aux yeux. Les expatriés seront entre eux, les Qatariens entre eux. Et à une table, vous ne verrez jamais Qatariens et expatriés mélangés, sauf dîner ou déjeuner d'affaires.
C'est ça. Quand vous dites ça saute aux yeux, évidemment, on le voit aux mode, voilà, aux tenues vestimentaires, bien
voilà,
évidemment.
Donc les femmes vont être habillées en abaya noire. Donc l'abaya, c'est le long manteau, la longue robe traditionnelle noire des femmes qatariennes, mais qui vont se distinguer.
Qui sont bien sûr toujours voilées dans l'espace public,
oui,
à l'extérieur de la maison.
Toujours. Mmh. Et elles vont se distinguer par leurs superbes chaussures de luxe à talons très hauts, vertigineux. Même des fossiles, un maquillage, des yeux, vraiment pour se distinguer les unes des autres, et un maquillage très voyant finalement, des belles montres, des beaux bijoux, des bagues immenses, donc On a beau voir que des manteaux, des longues robes noires, mais si on voit de plus près, déjà ces abayas, elles seront toutes différentes les unes des autres. Vous pourrez avoir de la dentelle, des ceintures nouées différemment et tous ces petits accessoires qui font
des subtilités auxquelles il faut s'habituer évidemment et dépasser cet océan d'abayas noires.
Voilà. Et pour les hommes, donc c'est en blanc. Et leur tenue à eux s'appelle la dijdasha. Donc c'est pareil, c'est comme une grande tunique blanche et ils vont porter des sandales en cuir aux pieds. Eux, pour se distinguer, ça va être le stylo qui dépasse de la poche. Pareil, les boutons de manchette, la montre de luxe au poignet. Et très important aussi, le parfum. Alors moi ça m'a surpris au début, c'est que vous allez croiser des Qatariens et vous allez vous retourner parce qu'il y a vraiment un long sillage qu'ils laissent derrière eux. Ils aiment beaucoup le parfum et
alors,
se parfumer.
Il faut tout de même expliquer pourquoi il y a cette volonté, voire cette obsession de conserver des traditions, une identité qatarienne dans un pays où les Qatariens représentent moins de 10% de la population.
Voilà, alors je dis toujours à ceux qui me posent la question, imaginez en France ou ailleurs d'ailleurs 90% d'étrangers, plus de 90%. On peut comprendre dans ce cas qu'ils aient envie, besoin de se protéger, de préserver leur culture et peut-être de rester entre eux et qu'ils aient peur de se mélanger par peur de perdre leur identité, leur culture. Ils sont si peu nombreux. Donc,
une femme qatarienne peut épouser un étranger ?
Très difficilement. Il faut des autorisations spéciales. Il faut que ça se justifie. Par exemple, qu'il n'y ait plus d'hommes qatariens disponibles. Donc,
mais dans ce cas, elle peut transmettre sa nationalité à ses enfants.
Alors non, une femme qatarienne ne peut pas transmettre la nationalité.
Contrairement aux hommes.
Voilà, les hommes, oui. D'ailleurs, ils épousent de plus en plus de femmes issues de la région. Ou plus
les saoudiennes, voilà. Notamment, oui. Évidemment, parce que la population saoudienne est très nombreuse.
Mais aussi des jordaniennes, des marocaines. Voilà, ça se voit de plus en plus également. Parce
Pourquoi
qu'ils disent que les femmes qatariennes sont trop chères. Pareil, parce que la disposition légale...
Trop dépensière.
Alors ça, je ne sais pas. Mais elles peuvent choisir, c'est elles qui rédigent le contrat de mariage. Donc elles vont dire, voilà ce que je veux en cas de rupture. Et voilà ce que je veux comme dot. Et apparemment, il y a beaucoup de bijoux.
Il y a des divorces à Doha ?
Oui, plutôt. Parce qu'ils se rencontrent souvent pas très longtemps avant de se marier. Ils ne se connaissent pas. Donc forcément, le risque, c'est que ça ne fonctionne pas.
C'est la question que j'allais vous poser, justement. Comment rencontre-t-on un garçon ou une fille à Doha ?
Alors, pas en public. Ça... D'ailleurs, les femmes sortent entre elles. On va voir donc le groupe des abayas noirs et les hommes entre eux. Et ils vont pas se mélanger, à part si ce sont des familles. Mmh. Mais donc, voilà, on voit
c'est
pas de célibataires.
Un film en noir et blanc, on va dire.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mixité.
Comment se font les présentations ? Ce sont les mamans qui gèrent l'affaire ?
Exactement. Donc, les mamans qui vont, par exemple, se rendre à un mariage qatarien, les femmes sont séparées des hommes. Et dans ces mariages-là, elles y vont avec des superbes robes, maquillage, coiffure. Et donc elles sont dévoilées et c'est là que les mamans peuvent repérer les jolies filles.
Donc on se fait belle pour une future belle-mère finalement.
C'est ça.
Pas du tout pour un homme.
Repérage et donc la maman va ensuite se renseigner, je pense avec les commérages aussi, pour savoir si c'est quelqu'un de bien, si elle fait des études, si elle a une moralité exemplaire. Et après elle va en parler à son fils qui lui va suivre la vie de sa maman le plus souvent. Et là il y a donc une rencontre. Où les deux, la fille et le garçon, peuvent se voir pendant une minute. Donc elle va soulever son voile, le garçon va la regarder, elle va le regarder. Et heureusement, après, chacun peut dire oui ou non.
Ce que vous décrivez là, c'est pas une caricature, c'est pas un cliché. C'est-à-dire que des filles émancipées qui ont fait des études, qui travaillent, ça va se passer de la même façon.
Exactement. Donc c'est dire le poids que garde la tradition et la famille auprès des Qatariens.
Il y a une journée où les filles montrent leurs cheveux à Doha, je crois. C'est lors de la fête nationale, ça c'est en décembre.
Et Et oui, c'est le 18 décembre, la fête nationale du Qatar. Et là, il y a beaucoup de festivités dans les rues. C'est vraiment une journée exceptionnelle où on peut voir des Qatariens, parce que sinon, c'est rare. Ils vont sortir en voiture, décorer les 4x4 aux couleurs du drapeau bordeaux et blanc, vraiment avec les portraits de l'émir actuel, cher Tamim bin Hamad Al Thani, et de son père qui était l'émir auparavant, cher Hamad Al Thani. Donc voilà, des autocollants, des drapeaux partout. Et donc, ces filles qui vont effectuer cette danse traditionnelle dévoilée. Alors en fait, elles font tournoyer leurs chevelures.
Pas seulement des petites filles. Hein,
des adolescentes, oui. Voilà, mais pas des...
Pas des femmes mariées.
En revanche, voilà, ça c'est pas possible.
Est-ce que vous nous décrivez Lakshmi Lota, une société à Doha très ségrégée, déjà entre étrangers et qatariens, entre femmes et hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent que cela change aujourd'hui?
Alors je pense c'est possible peut-être chez des jeunes et même auprès des autorités.
Des jeunes qui voyagent, hein, parce qu'ils ont un très bon niveau de vie. Donc ils ont été faire des études parfois à Londres, aux États-Unis, ils sont revenus.
Voilà, qui voient autre chose. Et même des filles qui voyagent également grâce à leurs études et qui voudraient peut-être faire changer les choses, mais ça reste compliqué justement à cause de la famille, à cause des règles qui persistent.
Il y a un dilemme politique entre les traditions et puis en même temps les attentes des étrangers qui, eux, veulent vivre, par exemple, consommer de l'alcool à une terrasse de café.
Alors ça, c'était possible il y a quelques années dans le quartier The Pearl, donc l'île artificielle qui a été construite à Doha, où on pouvait consommer de l'alcool en terrasse à l'extérieur, ce qui est aujourd'hui vraiment impossible. On peut boire de l'alcool dans les bars, dans les hôtels, mais vraiment pas à l'extérieur.
Mais
et donc
du
jour au lendemain, l'émir a décidé que cet endroit-là devenait, donc on dit dry, donc plus d'alcool servi,
donc sec.
Voilà, sec
comme le désert.
Exactement. Et je pense que c'était pour faire plaisir aux conservateurs et leur dire, regardez, on répond pas à toutes les demandes des expatriés, c'est encore nous qui faisons les lois, et si on veut qu'il n'y ait pas d'alcool, il n'y en a pas. Mais grosse déception du côté des expatriés, en revanche, qui ne pouvaient plus boire d'alcool à l'extérieur.
Les Qatariens, là je parle bien de la communauté qatarienne, hein, moins de 10% de la population à Doha, travaillent. Certains quand même ont des emplois, hein, parce que tout le monde n'est pas richissime, il faut quand même le préciser. Hein. Ils travaillent dans l'administration, un peu dans des entreprises privées. Ils travaillent très peu globalement en termes d'emploi du temps, non?
Alors pour ceux qui sont fonctionnaires, effectivement c'est 6 heures de travail par jour. Après 6 heures, on les fait ou on les fait pas, c'est-à-dire que il y a...
Bon, ça peut être un gros mi-temps finalement. Hein.
Voilà, et puis il n'y a pas vraiment de suivi, on ne va pas leur taper sur les doigts s'ils ne sont pas présents. On m'a raconté que dans une entreprise privée, quelqu'un avait affaire à un salarié qatarien, et en fait cette personne ne l'avait pratiquement jamais vu. Et un jour le qatarien débarque en disant « bon bah je viens poser mes vacances ». Et c'était vraiment, c'est des histoires vraies qui semblent incroyables. Et voilà, il n'y a pas d'obligation de présence, forcément, pas de punition.
Parce que le business tourne sans eux, c'est ça?
Voilà,
avec
ça
ceux qui en font le double.
Ça fonctionne sans eux.
Ouais. Le week-end, qu'est-ce qui se passe à Doha? On a envie de quitter Doha, bien sûr.
Alors, pour les Qatariens, ils vont aller dans le désert quand la période de l'année le permet, parce qu'on a parlé des grosses chaleurs, mais il faut dire que quand même à partir de octobre, novembre et jusqu'à avril, il fait entre 15 et 25 degrés, donc très agréable.
Période très propice pour la chasse aux faucons.
Là. Alors là, ce qu'on entend, c'est donc un commentateur sportif qui commente une chasse au faucon. Donc, c'est dans le désert. Un faucon qui poursuit un pigeon, et le but, c'est qu'il l'attrape. Mais je vous rassure, le pigeon gagne 9 fois sur 10, quand même. Et les Qatariens sont donc très amateurs de fauconnerie. Hein, c'est une pratique ancestrale. Sauf qu'autrefois,
c'est très difficile, hein, d'ailleurs, hein, de dresser les faucons. Hein.
Ah, ils commencent très jeunes, à partir de 5 ans, les enfants possèdent des faucons.
Alors, les Qatariens disent souvent, non mais moi, le week-end, j'aime aller sous ma tente, dans le désert. Ça veut dire quoi très concrètement en fait ?
Alors sous la tente, c'est une tente en dur, avec l'air conditionné, peut-être un jacuzzi, la télévision par satellite. Donc sous la tente, c'est pas le camping, hein, rassurez-vous.
Et donc c'est une maison au milieu de nulle part.
Voilà, c'est une maison
dans le désert. Ce sont des cabanons qui sont regroupés.
Non, ça peut être individuel ou regroupé.
Et qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, on contemple pas les étoiles, mais j'avais interrogé un petit Qatarien, un enfant justement au festival de la Fauconnerie, en lui disant mais tu parles dans le désert, c'est super. Qu'est-ce que tu fais avec tes amis le soir? Vous regardez les étoiles un peu naïvement. Il me dit oh ben non, on joue à la console de jeu ou alors je regarde un DVD à la télé. Ah, t'as la télé sous la tente. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait le satellite et l'air conditionné et que.
Tout comme à Doha, donc la capitale du Qatar, vivre dans cette ville de l'extrême, c'est aussi la ville des enfants pourris gâtés, Doha.
Alors oui, on n'a pas le droit de dire non à un enfant, et c'est d'ailleurs même difficile pour les expatriés.
Culturellement, vous voulez dire, hein.
C'est ça. C'est, par exemple, si vous vous retrouvez dans un supermarché, qu'un enfant va se mettre à faire un caprice, comme ça peut arriver, à pleurer, il faut vite essayer de le calmer, parce que tous les yeux vont se tourner vers vous, parce que c'est presque pas normal qu'un enfant pleure et réclame quelque chose, puisque pour les Qatariens, l'enfant va prendre le paquet de chips, les parents ne vont rien dire. Ils vont payer et l'enfant va manger le paquet de chips à n'importe quelle heure.
Alors, donc on se sent en tant qu'étranger souvent un parent maltraitant vis-à-vis
voilà,
des Qatariens.
C'est ça, parce que nous, on va dire non, l'enfant va se mettre à pleurer et puis on va nous regarder de travers.
À l'école, comment ça se passe du coup, ce règne de l'enfant roi à Doha?
Eh bien, l'enfant peut venir ou ne pas venir à l'école. Et on a constaté en septembre dernier, le premier jour, donc le jour de la rentrée scolaire, 30% d'absentéisme. Et si bien que le gouvernement a décidé de réagir, donc le Conseil suprême de l'éducation, qui est le ministère de l'éducation nationale, a décidé de sévir et de punir l'absentéisme. Donc si on est absent sans pouvoir justifier d'une vraie raison.
30% d'absentéisme quand même le jour de la rentrée scolaire, ça semble incroyable pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais d'où ça vient c'est un désintérêt culturel,
un désintérêt
pour l'école, pour l'éducation.
Ils n'y voient pas d'intérêt puisque quoi qu'il arrive, ils pourront accéder à des postes très importants. Il y a une qatarisation en ce moment, donc s'il y a un poste correct, très bien payé, ils vont l'obtenir, peu importe la formation ou le niveau. Ils ont des privilèges, donc quel moteur.
Ça semble totalement paradoxal dans un pays qui mise, qui dit miser beaucoup sur l'économie du savoir pour l'après-pétrole. Je pense notamment à la fondation de la Sheramoza, l'épouse de l'émir, qui a.
Oui, la fondation du Qatar.
Voilà, qui a beaucoup fait pour l'accès à une économie du savoir, avec des joint ventures d'universités américaines, etc.
Voilà, c'est ça, avec le fameux campus Education City qu'elle a créé en faisant venir Weill Cornell Medical College, Carnegie.
Alors tout ça, c'est du vent ?
Alors tout ça, justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème entre l'école primaire et qu'il fallait bien passer par là pour arriver à ces grandes universités. Et donc, je disais, le ministère a décidé de punir les élèves en leur disant « si vous êtes absent trop longtemps, vous ne pourrez pas passer vos examens finaux et donc vous ne pourrez pas avancer ». Ils parlaient aussi de mettre en place plus de... des choses plus ludiques comme des expériences en laboratoire, faire de la photographie, de la robotique, pour finalement redonner envie aux enfants d'apprendre.
Une école de la séduction, précisément.
Voilà. Et travailler peut-être avec des tablettes tactiles, parce que ils aiment beaucoup les nouvelles technologies aussi, mais il faut vraiment faire venir les enfants à l'école qui s'en désintéressent.
Finalement, peut-être celles qui savent vraiment comment on vit dans les familles qatariennes, derrière le portail que les étrangers poussent difficilement, faute d'être invité, ce sont peut-être les domestiques, beaucoup de Philippines, hein, qui s'occupent des enfants et qui aiment fredonner cette chanson-là en faisant le ménage. Poussant le bateau, cœur de pierre.
Sabi mo noon sakit.
qu'on entend dans les karaokés philippins à Doha.
Oui, c'est ça. Alors, je connais notamment un karaoké dans un hôtel. Les Philippins adorent aller chanter. Et ils sont 200 000 à Doha. Mais c'est vrai qu'on en croise souvent parce que la communauté philippine, ce sont donc les housemaids, les domestiques, mais également les serveurs et les serveuses dans les restaurants et tous les vendeurs dans les magasins. Ouais. Ce sont des Philippins.
On a parlé des ouvriers sur les chantiers. Côté femmes, ce sont des femmes qui sont évidemment employées dans les maisons particulières, avec un certain nombre de problèmes.
Oui, qui ont été dénoncés aussi par plusieurs ONG où elles peuvent être réduites à de l'esclavage, parce qu'en revanche, elles ne sont pas dans le droit du travail. C'est vraiment une catégorie à part. Et il n'y a rien dans la loi qui les concerne.
La catégorie domestique n'est pas reconnue dans le droit du travail.
N'existe pas. Vous pouvez faire venir une employée de maison, la payer, ne pas la payer, comme vous le souhaitez. Elle ne pourra se retourner que vers son ambassade si elle a l'occasion de sortir soit du compound, soit donc du quartier résidentiel expatrié, soit de la maison qatarienne. Parce qu'en fait, le plus souvent, on leur confisque téléphone portable. Elles n'ont aucun moyen de communication. Elles ne peuvent pas sortir de l'endroit où elles vivent, donc même pas moyen d'appeler au secours.
Aucun recours en justice possible.
Aucun.
Si ce n'est par les ONG qui éventuellement pourraient être alertées sur leur cas.
Si elles réussissent à en parler, j'avais rencontré quelqu'un qui avait été victime de viol, qui avait réussi à s'enfuir vraiment en profitant du portail qui s'ouvrait de l'absence de ses employeurs et qui avait couru jusqu'à son ambassade, je ne sais plus comment. Et qui en plus, comme on n'a pas le droit de sortir sans l'autorisation de son employeur, se retrouvait victime et ne pouvant même pas bénéficier d'une assistance psychologique et ne pouvant même pas rentrer chez elle.
Ouais, c'est ça, sortir
au Qatar,
du territoire. En admettant qu'une ONG puisse financer le billet ou l'ambassade,
exactement.
Il faut se faire signer son bon de sortie pour quitter le territoire qatarien. Doha et la vie politique, où en est-on aujourd'hui aussi calme qu'hier et que demain, finalement, on est dans un pays non démocratique, les Qatariens ne votent pas, c'est bien cela?
Voilà, alors sauf rarement, donc dernièrement c'était pour le conseil municipal où ils peuvent choisir leurs conseillers municipaux, mais c'est vraiment une exception. Il n'y a pas de parti politique, pas d'opposition.
Et vous avez tout de même assisté à une manifestation, je crois.
Arab leaders, unite!
Arab leaders, unite!
Clin d'œil d'une manifestation à Doha.
La seule que j'ai vue en 4 ans, puisqu'il est interdit de faire grève ou de manifester au Qatar. Et là, c'était à l'occasion de la COP 18 qui s'est tenue à Doha, donc la conférence.
La COP 18 sur l'environnement.
Exactement. Et donc là, c'était une manif vraiment très organisée, très encadrée. On savait qu'il participait. Il devait aller de ce point-là de la corniche à cet autre point, puis se disperser, terminer, quoi. C'était pour appeler les leaders du monde arabe à faire quelque chose pour l'environnement. Mais c'est vraiment la seule fois où j'ai vu une manifestation, si on peut appeler ça comme ça. C'était plutôt un défilé.
Qu'y aurait-il un problème d'environnement à Doha?
Voyons voir.
Cherchons.
Le premier pays donc émetteur de dioxyde de carbone par habitant, donc pollueur, mais enfin c'est surtout à cause de ces industries, donc le gaz,
donc les usines
et le pétrole.
De liquéfaction du gaz, ce qui a fait la richesse du Qatar. Il n'y a pas d'eau douce.
Voilà, tout est dessalé. Donc pareil, c'est polluant de dessaler l'eau de mer. Et voilà, donc toutes les usines de gaz, de pétrole qui utilisent énormément d'eau, qui n'est souvent pas retraitée, pas réutilisée, donc beaucoup de gaspillage aussi. Après, de la part des Qatariens et des expatriés, c'est vrai que, par exemple, il n'y a pas de tri des déchets. Voilà, là je reviens ici, je me rends compte qu'il faut séparer les choses, qu'il y a plusieurs types de poubelles, il faut s'y remettre, mais voilà, il n'y a pas ça là-bas. J'entendais parler de personnes en fait qui laissaient tourner leur clim pendant qu'ils partaient, parfois 2 mois en vacances, mais la clim continuait à tourner dans les immenses maisons, et je demandais mais pourquoi? Ah, pour pas que les meubles moisissent. Donc voilà, on laisse facilement l'eau, allumer l'électricité.
Il y a du boulot à la veille de la COP 21, donc pour Doha. Lakshmi Lotha, 4 ans à Doha, c'est plutôt long.
Non, ça m'a semblé...
Est-ce que
ça passe vite?
Est-ce qu'il y a des... Vous êtes rentré là depuis quelques semaines, quelques jours?
Oui, 15 jours.
Définitivement, voilà. En France. Est-ce que ça peut être une ville attachante, malgré ce que vous avez décrit?
Oui, en fait, on s'y attache parce que déjà, il y a du soleil, donc c'est plutôt agréable. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'attention portée à la famille, à certaines valeurs.
Merci en tout cas, Lakshmi Lotha, pour ces tranches de vie à Doha, ville extrême. Demain, nous traverserons continent et océan pour nous poser en Amérique, en terre latinos. Demain, vivre dans une ville inventée, Brasilia, capitale du Brésil, racontée par Annie Gasnier, loin du foot, tout près de la politique.